Le charme d'Andersen, de Paul Hazard. Copenhague, mai 1930. La vieille dame qui me reçoit, tout émaciée par l'âge, agite les mains comme pour appeler et gromper les souvenirs. Que ses yeux sont restés beaux. Elle a connu Hans Christian Andersen. Elle lui sourit à travers l'ombre. Il s'asseyait dans ce coin près de la fenêtre, et chaque fois qu'il avait écrit un nouveau conte, il venait nous le conter à nous, les enfants. J'étais sa petite Louise. Pour nous, il découpait du papier avec des ciseaux. Roi et reine, dame à crinoline, bouffon, paysage, arabesque. Comme ses mains nous semblaient grandes. Elles étaient adroites, ces grandes et lourdes mains, et jamais leur coup de ciseau ne se trompait. Regardez ce portrait. Il écrit en dessous « La vie est la plus belle des aventures ». Regardez ces éventails. Sur chaque lame, un autographe d'homme célèbre. C'est une idée qu'il a eue. Ce paravent, c'est lui qui l'a fait, pendant une maladie. Il prenait des images dans les journaux, dans les revues, et les collait de façon à faire des ensembles. Une feuille de paravent par pays. Voici la France. Dans le grand salon aux panneaux blancs, dont les fenêtres donnent sur le marché aux fleurs, sur le marché aux poissons, sur le château, au cœur de Copenhague, rien n'est changé. Andersen pourrait frapper à la porte, coiffé de son haute forme, portant à la main son ami le parapluie, son inséparable. Il reprendrait sa place familière et commencerait l'histoire du rossignol ou de l'intrépide soldat de plomb. Dans son pays, dans sa bonne ville, on l'évoque avec un sentiment de reconnaissance et de tendre familiarité. C'est ici qu'il arriva, venant de son île natale, à 17 ans, maigre, de grands pieds, un grand nez et si gauche. C'est ici qu'il s'évertua, pour devenir chanteur, acteur, danseur, malgré les hommes et les dieux. C'est ici qu'un protecteur le mit à l'école, grand garçon parmi les petits, qui le trouvait ridicule, cygne au milieu des canards. On montre, à la bibliothèque royale, des échantillons de son écriture d'adolescent tardif, appuyée et lourde, et son carnet de notes. D'où il ressort qu'il était très mauvais en géométrie, très mauvais en géographie, mais très bon en composition danoise. Même ses professeurs ne purent s'y tromper. Je distingue dans une vitrine un examen de conscience écrit, qu'il fit vers sa 20e année, un de ses questionnaires psychologiques et moraux, qui était alors à la mode et auquel il répondit point par point. Aimez-vous les enfants? Beaucoup. Faculté d'affection? Grande. Instinct de destruction? Faible. Égoïsme? Médiocre. Idéalisme? Grand. Faculté d'imitation? Grande. À la question de savoir s'il possède un démon intérieur, un organe spirituel inconnu des physiologues, il répond sans hésiter que oui. Il saisit en lui-même, tout à la fois, une âme immortelle et l'élan du génie. Souvent, la fièvre des grands départs l'agitait, et il quittait Copenhague pour courir le monde longuement. Un beau jour, on le voyait revenir, chargé de notes, de dessins qu'il avait exécutés devant les lieux chers à son cœur et de souvenirs. Il n'avait pas de maison, à peine un petit appartement, où il n'habitait guère. Il vivait chez ses amis. Chez ses amis, il est mort. Lorsque l'inspiration le saisissait, il jetait quelques pages sur le papier, et puis il les reprenait encore, raturait, collait des papillons, un grand renfort de pain à cacheter. On peut suivre, sur ses manuscrits, la trace de ce grand labeur qui donne à ses histoires un air naïf et facile. On peut suivre aussi, en parcourant les vieilles rues où il a erré, en dévisageant les maisons sur lesquelles il aimait à poser son regard, en franchissant les seuils qu'il a franchis, en l'accompagnant pas à pas, une des plus belles vies comme au monde ait jamais vécue. Elle commence par la misère. Elle connaît l'effort exaspéré et vain. Elle se remplit de belles images exotiques, d'amour passionné et toujours déçu, de grandes amitiés consolatrices. Elle aboutit à la gloire et elle se couronne d'immortalité. Pèlerin d'Andersen, que j'admire et que j'aime, je me pose une question. Le charme qui a permis au fils du cordonnier et de la lessiveuse, né dans un lit fait des débris d'un catafalque, de conquérir son pays et l'Europe et toute la terre, d'être traduit dans toutes les langues, en chinois, en bengali, de séduire et de retenir le public le plus difficile, celui des enfants. De quelle profondeur vient-il? Dans le décor de ses contes, quelle grâce, quelle ingéniosité et quelle surprise de rencontrer sous ce cadre menu les richesses de l'univers. Vous n'y trouverez pas seulement Copenhague et ses maisons de briques, et ses grands toits rougeâtres et ses dômes cuivrés et la croix dorée de Notre-Dame que fait reluire le soleil, le Danemark avec ses marais, ses bois, ses saules que courbe le vent, sa mer partout présente, la Scandinavie, l'Islande neigeuse et glacée, mais l'Allemagne, mais la Suisse, mais l'Espagne inondée de soleil, le Portugal, Milan, Venise, Florence et Rome, Paris, ville des beaux-arts, ville des révolutions. Vous y trouverez l'Égypte, la Perse, la Chine, l'océan jusque dans ses profondeurs où vivent les sirènes, le ciel où passe la blancheur des grands cygnes sauvages. C'est un merveilleux livre d'images que compose la Lune en racontant ce qu'elle a vu dans les montagnes, sur les étangs, à travers les fenêtres des habitations humaines, partout où sa lumière mélancolique et pure doucement se glisse, se joue et meurt. Encore n'est-ce là qu'une partie de ce que l'observation ou la fantaisie peut offrir à une curiosité passionnée. Si le présent ne suffit pas, évoquez le passé, villa pompéienne ou palais barbare des Vikings. Si le réel ne suffit pas, regardez les décors magiques que construisent les fées. Si vos yeux ne sont pas rassasiés des innombrables spectacles de la nature, fermez-les. Dans vos rêves apparaîtra l'ombre lumineuse du vrai, mouvante, changeante et plus belle que les beautés du jour. Anderson a tous les genres d'imagination. L'imagination familière, qui extrait le pittoresque de toute chose, même de l'ordinaire, même du banal. L'imagination fantastique, qui décompose la matière et la recompose suivant un ordre nouveau. Il passe sans effort de la miniature à la fresque. Distinguant le détail le plus ténu, il embarque la petite poussette sur un pétale de tulipe et la lance sur l'eau que contient une assiette, minuscule océan tout bordé de fleurs. La passagère se nourrit de pollen, se désaltère d'une goutte de rosée, chancelle sous le poids d'un flocon de neige. Anderson se réduit à sa taille et devant la petite poussette, il n'est plus que le petit pousset. Il prend part aux ébats et aux aventures du sylphe, si léger, si mince, qu'il habite dans un bouton de rose. Un jour, le petit sylphe s'était amusé à mesurer combien il lui fallait faire de pas pour parcourir tout le labyrinthe de chemins et de sentiers que forment les veines d'une feuille de tilleul. C'était long. Mais en regard, quelle vision grandiose! Laissant ce sylphe, il affronte les montagnes. Il aime ces géantes, il les peint volontiers. Knud, le cordonnier, arrive au pied des Alpes et se prend à réfléchir. Les Alpes lui apparurent comme les ailes ployées de la terre. Qu'arriverait-il, se disait Knud, si la terre détendait et déployait tout à coup ses ailes immenses, avec leurs forêts sombres, leurs torrents, leurs masses de neige? Sans doute la terre, au jugement dernier, s'élèvera ainsi, portée dans l'infini, et comme une bulle de savon au soleil, elle se dispersera en des millions d'atomes dans l'éclat des rayons de la divinité. Quel auteur, capable de passer ainsi de l'infiniment petit à l'infiniment grand, fut doué d'une imagination plus riche, plus souple et, pour ainsi dire, plus aisée? Quel auteur a pu rendre, avec plus de reconnaissance et d'amour, et la beauté du grand jardin du monde et la splendeur des fêtes que nous nous donnons à nous-mêmes? Car sa peinture est tout imprégnée de sentiments. La nature, pour lui, n'est pas un jeu de couleurs, au hasard juxtaposé. Elle a une âme, qu'il sait interpréter. Partout régnait le silence, mais ce n'était pas celui du sommeil ni de la mort. On aurait dit que la nature se réveillait et retenait sa respiration pour bien poser devant un peintre divin qui aurait voulu tracer son image sur le fond bleu du ciel. Éblouir ou charmer les yeux, mais émouvoir aussi et toucher le cœur, c'est le privilège du poète. Et sans doute, Hans Christian Andersen doit à sa faculté poétique, intense et discrète à la fois, le pouvoir de charmer les hommes et les enfants des hommes. Mais l'explication n'est pas complète, elle n'est même pas suffisante. S'il est vrai qu'on peut être poète, hélas, et ne pas réussir à se faire lire plus loin que son clocher. Que les animaux aient un langage intelligible, voilà ce que personne n'ignore. Et les enfants le savent mieux que tous. Lorsque le chat dit au petit Jacques « Viens avec moi sur le toit, pose une patte ici, une autre un peu plus haut. Allons, hisse-toi, regarde comme je fais, rien n'est plus facile. » Petit Jacques comprend parfaitement le chat. et le langage du chien, qui, non content d'aboyer, s'exprime aussi par ses yeux, ses oreilles, sa queue et tout son corps, n'a pour l'enfant aucun secret. Que les plantes parlent, d'accord. Après tout, pourquoi la mère Sureau et le père Saule n'échangeraient-ils pas leurs confidences, comme tout le monde? Les feuilles sont très bavardes, elles murmurent pour un rien. Mais ce qui est plus rare et plus beau, c'est de voir s'animer les objets et d'entendre leurs voix. Non seulement les jouets, qui ont l'habitude de sortir de leur boîte dès qu'on les perd de vue, et qui s'amusent pour leur propre compte, c'est bien leur tour. Non seulement la danseuse de porcelaine, qui est sur la cheminée et qui fait des grâces. Non seulement le magot chinois, qui s'est installé sur la console et qui hoche la tête en vous regardant. Mais ce peuple innombrable, que les indifférents appellent les choses, s'agite, s'émeut, prend la parole et remplit l'air de ses plaintes ou de ses chansons. Tout est vivant. Le rayon de soleil qui danse à travers la fenêtre, la branche de pommier dans sa robe de printemps, les meubles du salon, les outils du jardinier, les ustensiles de cuisine, le seau, le balai, le panier, les assiettes et jusqu'aux allumettes, bien qu'ils soient un peu guindés. Des objets que vous pouvez imaginer, il n'en est aucun qui ne désire causer avec ses voisins et se divertir en compagnie. La nuit, vous croyez qu'il n'y a plus rien. Seul moment, au contraire, où les êtres muets sont à leur aise pour parler, où les êtres immobiles sentent leurs jambes les démanger et gambadent gaiement. Le problème d'arithmétique s'agite sur son ardoise. Les lettres s'agitent sur le cahier d'écriture et se plaignent d'avoir été si mal tracées. La nuit elle-même, au dehors, est toute pleine de gnomes et de kobolds. Lorsqu'on est enfant et qu'on sait à peine parler, on comprend à merveille le langage des poules et des canards, des chiens et des chats. Ils nous parlent aussi distinctement que père et mère. On entend même, alors, hennir la canne du grand-père, dont on a fait son cheval, et on lui voit une tête, des jambes et une queue. Mais une fois qu'on grandit, cette faculté se perd. Cependant, il y a des enfants qui la gardent plus longtemps que d'autres. On dit de ceux-là qu'ils restent de grands dadais. De grands dadais ou des génies. À ce dernier compte, remercions le ciel de ce qu'Anderson soit resté enfant. Si d'autres dessèchent tout ce qu'ils touchent, en analysant, en disséquant, lui, au contraire, anime et vivifie. Au sommet des montagnes, sur les plus hauts pics, il sent le vertige qui pose sur lui ses regards, pour le faire vaciller et le précipiter dans l'abîme. Au fond des crevasses habite la reine des glaciers. Elle demande ses victimes, on entend sa voix. Jamais il n'est seul. Il est entouré d'une foule de petites vies, d'une foule d'êtres qui l'observent et qui l'épient. Il n'est qu'un acteur, peut-être un peu mieux doué, dans une immense comédie à laquelle part un fourmillement d'autres acteurs. Tous les autres, le chêne, la maison, le papillon, la bague, le morceau de bois, la pierre du tombeau, comme lui, avec lui, se réjouissent ou souffrent. Hallucination qui n'est peut-être pas entièrement volontaire et qui n'est peut-être pas entièrement fausse, si elle ne fait que traduire le mystère de l'être et la constante vibration des choses. Comme l'on sent, ici même, la puissance de l'imagination du Nord, toute saturée de sensibilité. Comme elle est différente de l'imagination du Midi, de celle qui découpe chaque chose en silhouette arrêtée dans l'éclat pur du soleil. Sous ce ciel chargé de brume, dont la lumière reste timide et grise même dans les jours les plus heureux, on comprend la valeur des incertitudes et des confusions. La cruauté d'une vision trop nette ne vient pas démentir l'homme lorsqu'il croit apercevoir de grimaçantes figures dans les racines des bois, lorsqu'il peuple la mer de fantômes, doucement estompés sur une étendue grisâtre. S'il se projette au dehors, comme le veut la loi de notre être, il le fait avec moins d'orgueil et d'autorité. Il n'est pas tout à fait sûr que les jeux de son imagination ne sont rien d'autre que lui-même. Il lui plaît d'accueillir, comme venant d'ailleurs, les appels qu'il prête à l'univers. Indécis, il laisse aux choses leur caractère, comme pour les élever jusqu'à lui, comme pour trouver des amis dans son horizon pâle et vide. Il hausse les animaux à son propre niveau, respectueux de la vie. Pourquoi n'auraient-ils pas le droit d'être eux-mêmes? Les cigognes, en apparence toutes semblables, vêtues de blanc et de noir, et portant des bas rouges, pourquoi n'auraient-elles pas leur personnalité? Pourquoi les oiseaux, dans le bois ou dans la plaine, n'auraient-ils pas un caractère différent, quand ils ont un différent plumage, et par une transition qui passe de la vie manifeste à la vie cachée, pourquoi n'essaierait-on pas de surprendre l'âme individuelle de chaque objet? Si ce n'est qu'un divertissement, au moins est-il généreux et pitoyable. Cette vieille lanterne qui a participé à l'existence des humains, qui leur fut utile en écartant d'eux les dangers de la nuit, semble avoir une volonté. Elle s'obstine à lutter contre le vent, contre la pluie. Une intelligence, car elle s'intéresse aux aventures des passants auxquels elle prête son reflet. Une sensibilité, car elle souffre lorsqu'elle voit le malheur autour d'elle. Son ambition est de durer, de persister dans son être. Elle a l'horreur du néant. Ainsi de suite, en continuant le rêve, en le multipliant jusqu'à l'infini. Le faux-col est orgueilleux de sa splendeur glacée. La théière fait la dégoûter et ne prétend chanter que lorsqu'elle a chaud. Et le shilling d'argent, si on lui dit qu'il n'est qu'une pièce fausse, vibre d'indignation. Quand on sort de la lecture des contes, on n'est pas tout à fait le même homme qu'au moment de les aborder. On deviendrait volontiers, comme dit Rimbaud, un opéra fabuleux. Les blés qui ondulent, quelle émotion les fait frissonner? Où vont ces nuages blancs qui passent? Se rendent-ils en atours légers à quelque fête céleste, dans les palais du prince Azur? Ainsi l'on déraisonne délicieusement, tant à de puissance cet animisme primitif, réveillé au fond de nous-mêmes par la baguette d'un enchanteur du Nord. Enchanteur, magicien, ce sont de beaux titres à la gloire. Nous croyons pourtant qu'Anderson en possède de plus enviables, et que le secret décisif de son charme n'est pas encore tout à fait là. Il y a beaucoup de douleur dans le monde, pense Anderson. Les femmes que vous aimez ne vous aiment pas. Elles disent qu'elles veulent bien être votre sœur, ce n'est pas la même chose. Elles deviennent de grandes chanteuses, ou bien partent pour l'étranger, ou bien se marient à un autre, et elles vous oublient. Les parents meurent jeunes, et voilà ces petits laissés seuls sur la terre, comme ils vont souffrir. Nous nous sentons toujours instables. Nous savons qu'à chaque seconde nous périssons. Tout passe. Les palais des Césars et les livres des poètes. Les animaux ne sont guère plus heureux que nous. Et comme dit le chien qu'on a mis à la chaîne, les choses en ce monde ne sont raisonnablement disposées ni pour les chiens ni pour les hommes. Si encore on savait pourquoi, ce serait une consolation. Mais le livre de la vie est difficile à lire. Le sage arrive à en déchiffrer quelques chapitres, non pas le dernier, celui qui traite du départ vers l'inconnu. Il faudrait la pierre philosophale pour éclairer les lignes d'une plus vive lumière, où la trouver? On dit que tout le mal vient de la faute de nos premiers parents, mais comment expliquer qu'ils l'aient commise? À ces doutes, qui vous travaillent l'esprit quand vous vous promenez seul ou quand vous ne pouvez dormir, vient s'ajouter la sottise des hommes, car le nombre des imbéciles est grand. Chacun se croit au-dessus de sa condition et se gonfle d'orgueil. Le bonhomme de neige, quand vient le soir, s'imagine que son regard impérieux a forcé le soleil à s'enfoncer sous terre. Le chardon prétend descendre d'une illustre famille d'Écosse. La canne portugaise se croit d'une essence supérieure et méprise tous ceux qui ne sont pas portugais. L'ortie proclame qu'elle est une plante distinguée, puisqu'on tire d'elle une délicate mousseline. Ainsi de suite, de proche en proche, jusqu'aux y compris les sots qui admiraient les habits du roi. L'excès du travail ne rend pas seulement les mains calleuses, il risque d'aigrir l'âme. Ceux qui n'ont pas à travailler risquent d'être égoïstes et cruels. Il y a des filles qui marchent sur le pain pour éviter de salir leurs souliers, comme la petite Inger. Et comme pour la fille du roi des marais, cette double nature qui est en nous, un affreux charme pesait sur la petite. Le jour, elle était ravissante comme une elfe, comme une fille du soleil, mais elle avait un caractère méchant et sauvage. La nuit, elle devenait une horrible grenouille, et alors elle était douce et humble, elle gémissait. Ses yeux étaient remplis de chagrin. Il y avait là deux natures qui, au dehors comme au dedans, alternaient suivant le cours du soleil. Bref, tout cela ne ferait pas un très beau spectacle si on s'en tenait là, et pour le dire avec le marchand de pain d'épices, j'avais à la montre de ma boutique deux jeunes gens de pain d'épices. L'un était un homme avec un chapeau, l'autre une demoiselle sans chapeau. Ils n'avaient de figure humaine que d'un côté, et il ne fallait pas les considérer de l'autre. Du reste, les hommes sont de même, et il n'est pas bon de regarder leur envers. Voilà ce que pense le conteur épris de la nature, l'animateur des choses, qui a lui-même traversé la douleur. Anderson n'est pas de ces béats qui affirment qu'il fait toujours chaud sur la terre, en grelottant. Il sait ce que vivre veut dire. Le problème du mal, le problème de l'être, il les pose résolument. Mais loin d'être découragé par la vérité, il cherche à la mieux dégager, à la voir en face. La vérité afflige quand on ne la connaît qu'à demi. La considération de notre être, en effet, lui fait comprendre que nous sommes dans un état transitoire, dont nous pouvons sortir par la volonté, par la foi, par l'amour. Le monde des humains n'est qu'un devenir. À nous de nous hausser jusqu'aux réalités suprêmes qui nous attendent, et tout au moins de nous préparer à elles. L'amour, valeur idéale, est plus fort que l'absence, plus fort que la douleur. Il accomplit tous les miracles et celui de la résurrection. Il est élan vital, présage de la vie éternelle. Par l'amour cessent les enchantements. Par l'amour que lui porte sa fille, le roi d'Égypte est revenu des portes du tombeau. L'oracle l'avait prédit. L'amour produit la vie. Du plus vif amour naît la vie la plus élevée. Ce n'est que l'amour qui peut sauver la vie du roi. Par l'amour, par le sacrifice total et sans retour, la petite sirène a gagné l'immortalité. Le vrai mal, ce sont les fautes contre l'esprit, le manque de bonté, d'humanité. Le vrai bien, c'est l'aspiration à un état supérieur auquel les hommes de bonne volonté seront admis, et les animaux, oui, les animaux eux-mêmes. L'animal est, comme l'homme, une créature de Dieu, et je le crois fermement. Aucune vie ne sera perdue, chaque créature recevra le bonheur qu'elle est susceptible de recevoir. Il y avait une fois un affreux crapaud qui avait dans sa tête un diamant splendide. Toujours il tendait vers le mieux. « Cette pierre précieuse, cherche-la dans le soleil, si tu peux l'y distinguer. Tu ne le pourras pas, la lumière de l'astre est trop vive. Nous n'avons pas encore la lumière qu'il faut pour nous reconnaître au milieu des merveilles que Dieu a créées. Mais nous l'aurons un jour, et alors, ce sera le plus beau de tous les contes, il sera vrai. » C'est de cette vie intérieure que vient la densité des contes, c'est d'elle que vient cette vibration qui se propage dans l'âme des lecteurs, c'est d'elle que vient, enfin, un caractère frappant de sérénité. Je ne connais qu'un auteur qui, toute différence déduite, procure une impression semblable, Manzoni, comme Anderson, ne se fait aucune illusion sur les hommes. Manzoni, comme Anderson, ne laisse passer qu'à l'état de trace pathétique le trouble où le jette la constatation du mal, surpasse cet état psychologique et par la foi arrive à la sérénité. Tous deux, devant le spectacle du monde, restent paisibles. Ils se permettent même l'humour, même la gaieté, parce qu'ils tiennent le secret, et la foi et l'espérance, elles ne vous tromperont point. Tous deux vont de préférence vers les humbles, parce que la hiérarchie établie en ce monde passager n'est qu'une illusion, destinée à être remplacée par une plus haute loi de justice. L'amour du Créateur est infini, et embrasse également tout ce qui vit et se meut en lui. Toutes les créatures sont égales devant l'amour infini du Tout-Puissant, et une même justice gouverne tout l'univers. Chez tous deux, on sent passer la même inspiration biblique. L'homme au conte se met à sa fenêtre. Il écoute les hirondelles et les cigognes, revenus au Danemark pour les beaux jours d'été. Il écoute son ami le vent. Ou bien il se mêle à la foule et l'écoute encore. Ce que raconte le marchand de pain d'épices, ce que raconte le vieux pêcheur d'anguilles, de tout il fait profit. Il les redit à sa manière. Ces histoires qui excitent son sourire ou son émotion, il leur donne un tour lyrique, dramatique et toujours simple, qui n'appartient qu'à lui. Il les part des couleurs les plus vives ou les plus tendres, et leur prêtant des ailes, il les envoie jusqu'aux confins du monde. Mais il les charge aussi d'un sentiment intense, et c'est là, sans doute, s'ajoutant à tous les autres, le mérite décisif qui explique leur grand pouvoir. Les enfants ne s'y trompent pas. Dans ces beaux contes, ils ne trouvent pas seulement leur plaisir, mais la loi de leur être et le sens du grand rôle qu'ils ont à remplir. Ils sont soumis, eux aussi, à la douleur. Est-il plus gros chagrin que celui qu'on éprouve pour la mort d'une poupée? Le mal, ils le sentent confusément autour d'eux, en eux. Mais cette vive souffrance n'est jamais que passagère. Ce soupçon ne trouble pas leur sérénité. Ce qu'ils sont chargés d'apporter au monde, c'est un renouveau de foi et d'espoir. Si l'esprit humain n'était chaque fois rafraîchi par ces jeunes forces confiantes, que deviendrait-il? Arrivent nos remplaçants. Voici que les petits recommencent à parer la terre. Tout reverdi, la vie retrouve des raisons de vivre. Anderson, imprégnant la poésie de ses contes d'une invincible croyance en un avenir meilleur, s'appareille à l'âme des enfants, s'accorde avec leur nature profonde, s'associe à leur mission. Il maintient, avec eux et par eux, les forces idéales qui empêchent l'humanité de périr. Ainsi s'achève Le charme d'Anderson de Paul Hazard.